Donc, est-ce qu'il y a effectivement un bug dans notre cerveau, ou alors est-ce que c'est juste qu'aujourd'hui il est mal utilisé, ou qu'il y a des, il y a tout un tas dans nos structures, dans notre culture, dans nos modèles qui n'est pas propice à la restreinte. Voilà, pour faire ça distinct,
Oui.
parler de nature humaine, en fait, est-ce dans notre nature de faire ça?
On n'est pas condamné à consommer. Quand je décris ces circuits cérébraux qui nous poussent à le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est d'avoir construit un monde, d'avoir construit un environnement technique, économique et politique qui flatte ce système de récompense dans le sens double, c'est-à-dire qui lui donne ce qu'il demande, parce que c'est un ressort de la consommation qui permet de vendre, qui permet de gagner de l'argent et qui permet de faire tenir une civilisation qui repose sur ce ressort-là. On aurait pu imaginer que les humains bâtissent un monde où le but ce soit pas de vendre des choses qui activent le striatum des individus, mais plutôt de vendre ou de mettre à disposition des gens des choses, des services, des activités qui leur permettent de prendre conscience de ces prédispositions, mais éventuellement d'y résister ou d'avoir du plaisir, parce qu'il y a des moyens de le faire, par d'autres moyens. Donc pour moi, le bug et le drame, c'est pas le fait qu'on a une espèce de déterminisme interne qui nous dit « tu as un cerveau qui a un striatum, donc tu vas consommer ». C'est de dire, bah, en fait, on a encouragé ça par notre organisation sociale, mais il aurait été évidemment possible de le faire autrement. Et quand vous dites que certaines personnes ne sont pas esclaves de leur striatum, c'est un fait, et parce que ce système n'est pas figé, parce que le cerveau est plastique, parce que la prise de conscience de certains enjeux peut donner la volonté de s'observer en situation et de pas sauter de son canapé avec sa carte bleue quand il y a le Black Friday. Et moi, il y a beaucoup de gens après mes conférences qui viennent me voir, qui disent maintenant que je sais qu'il y a mon striatum qui me pousse à faire ça, et ben maintenant quand il y a les soldes, ben, je me vois moi-même en train de me précipiter vers ma carte de crédit et vouloir y aller. Donc je me dis ah oui, mais en fait je suis pas obligé. C'est juste que j'ai des petites décharges de dopamine qui me disent essaie, vas-y, 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 mais en fait j'ai le choix. Donc c'est tout à fait vrai qu'une fois qu'on met en œuvre des outils, par exemple la méditation de pleine conscience, et c'est un des axes que je développe dans le bug humain, permet notamment de continuer à avoir autant de plaisir et de la dopamine, mais sans forcément que ça passe par une débauche de consommation et par le fait d'augmenter les doses de nourriture, de sexe, s'acheter un nouveau SUV ou un nouveau téléphone ou que sais-je, pour échapper à cette érosion du désir et à ce phénomène d'accoutumance. Donc, les individus sont différents, je crois, en grande partie. Sur deux plans, parce que d'une part, sur un plan génétique et biologique au niveau du striatum, vous avez des personnes qui sont naturellement plus sensibles aux récompenses immédiates, plus impulsives, plus prises de risques, qui vont être plus dans la débauche d'énergie sexuelle, par exemple, puisque ça, c'est quand même extrêmement important hein, dans le mécanisme d'engrenage qui fait qu'effectivement, vous avez dit, les individus les plus violents ont dominé, c'est pas forcément les plus violents, mais c'est ceux qui ont réussi quand même mieux à transmettre leurs gènes. Et souvent, ça passait par du statut social dans un groupe, puisque c'est traditionnellement corrélé à plus de partenaires sexuels, et dans certaines situations historiques, par du viol à grande échelle. Donc, mais globalement, cet engrenage-là, il faut toujours l'avoir à l'œil. Et on est dans un vrai débat aujourd'hui de société sur l'égalité des genres et sur la dénonciation de ces comportements d'abus sexuels liés au pouvoir, où on se rend pas forcément en compte qu'on est en fait aux prises avec une réalité biologique qui nous vient de très très loin. Et ça va remettre en cause des choses très très profondes. Mais pour revenir à ce que je disais sur le fait de ça se joue au niveau, donc soit des différences individuelles dans l'appétence pour le plaisir immédiat, qui va passer par de la surconsommation, par exemple. Et donc ça va se situer au niveau du système de récompense et du striatum, soit on va être différent par le niveau de degré de conscience qu'on développe par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire qu'on voit souvent dans les trajectoires des personnes par rapport à ces questions climatiques, des trajectoires par palier avec des personnes qui sont d'abord dans du déni, qui ensuite acceptent le fait qu'il y a un problème, qui ensuite acceptent le fait qu'ils devraient faire quelque chose, et puis des années après, ils font vraiment quelque chose. Et donc, il y a une maturation du niveau de conscience des personnes vis-à-vis de ce problème-là, vis-à-vis de leur propre comportement, qui peut prendre du temps, qui passe par une plasticité du cerveau qui est particulièrement élevée dans les parties corticales, intelligentes, soi-disant conscientes, et qui permet d'avoir une trajectoire personnelle qui montre qu'on n'est pas figé, qu'on peut progressivement rééquilibrer le rapport des forces entre nos envies de facilité, notre dopamine d'un côté, et notre cortex préfrontal de l'autre, qui est vraiment un des pivots de la prise de conscience de façon générale dans nos existences. Donc tout ça n'est pas figé, et il y a des grandes différences d'un individu à l'autre, et d'une culture à l'autre peut-être aussi, mais là où on retombe quand même sur cette logique darwinienne qui fait beaucoup de mal, c'est que au niveau des cultures, il y a manifestement eu quand même une sélection du plus productif, avec tous ces exemples de peuples premiers qui ne reposaient pas sur l'exploitation de la nature par les moyens techniques débridés, qui se sont fait littéralement écraser, exterminer depuis des siècles. Donc ça aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça aujourd'hui?
Oui, ce que j'évoquais sur cette espèce de la civilisation qui gagne a été la plus prédatrice quelque part, ou la plus efficace pour aller chercher des ressources. Ça dépend comment on présente les choses, mais je pense que c'est important de préciser ça, parce que j'ai eu le sentiment en parlant avec des personnes qui avaient lu le bug humain, que il peut y avoir cette compréhension que quelque part, puisque c'est dans notre nature, finalement, voilà, on n'y peut rien. C'est que on a cette espèce de pulsion qui nous domine, et c'est en nous, et quelque part certaines personnes vont se dire, bah finalement le système économique ou le système social ou etc n'a pas tant d'importance, puisque fondamentalement on est buggé, c'est-à-dire qu'on est une erreur du système naturel, et puis on finira par disparaître parce qu'on n'est pas fait pour être ici, parce qu'on sait pas se restreindre.
Mais si vous lisez
cette confusion, je sais pas si vous avez déjà eu des retours là-dessus.
Oui, bien sûr, pas beaucoup en fait. Je m'exprime devant des publics très, très 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 nombreux, et souvent devant des publics qui découvrent en fait les neurosciences et qui ne vous disent jamais ça, qui vous disent ah ben justement d'accord, maintenant je comprends pourquoi notre société aujourd'hui agit de façon complémentaire avec notre cerveau, et qui n'ont pas du tout le réflexe de se dire c'est dans le cerveau, donc c'est déterministe, donc c'est biologique. Et ces critiques là je les reçois plus de personnes qui sont dans le champ des sciences sociales, ou de même en fait plus du tout de la psychologie, parce que la psychologie, en fait, plus personne en psychologie s'inscrit en faux par rapport aux neurosciences, plutôt psychanalyse ou sciences sociales. Et là, de personnes qui prennent la posture par défaut, et on ne sait pas si c'est parce que c'est une vraie crainte ou si c'est parce que c'est un procès destiné à décrédibiliser l'approche neuroscientifique, qui veut dire « oui, mais vous parlez de biologie, donc vous ne laissez plus de choix à l'être humain ». Ça, c'est totalement daté pour moi comme discours, puisque même dans les milieux des neurosciences, ça devient une réalité d'aucun neuroscientifique aujourd'hui de dire que parce qu'il y a un phénomène neuronal, il est figé et il détermine l'humain. C'est-à-dire, c'est quand même la base des neurosciences de savoir qu'il y a une plasticité, et que il y a quasiment, même dans le domaine des maladies du cerveau, quasiment aucune maladie, à part quelques-unes qui comptent sur le bout des doigts, ou une mutation génétique, ne va laisser aucun choix ou par rapport à l'évolution de la maladie. Ce sont toujours des facteurs qui vont pousser dans un sens ou dans l'autre en synergie avec l'environnement. C'est le paradigme absolu et général en neurosciences. Donc c'est ça qui est intéressant sociologiquement à étudier. Et vous, je sais pas comment vous avez lu le bug humain. Moi, il m'a semblé que la partie moi la plus intéressante quand je l'ai écrite, et il me semble quand même y avoir accordé pas mal d'importance dans l'écrit, c'était de constater que le problème venait du fait que nous avons créé une société qui, au lieu de contrebalancer ses acquis de l'évolution, leur donne libre champ. Et que c'est ça le drame du capitalisme, c'est que son succès vient du fait qu'il repose, en fait, sur une force logée dans notre cerveau, qui est une force brute, à qui il donne le champ libre.
Est-ce que vous avez des exemples de comment le système, ou justement, ou via la publicité, ou via d'autres choses, vient jouer sur ses faiblesses, quelque part, dans notre cerveau, sur ses pulsions, pour nous pousser justement vers toujours plus de croissance? Alors ça peut paraître évident, hein, il y a une publicité qui vient nous dire vous avez besoin de plus, vous avez besoin de plus, etc. Mais voilà, pour qu'on comprenne quels sont les mécanismes, et au départ ça même vient, c'est pas de neurosciences, ça vient des sciences comportementales qui ont trouvé qu'il y avait des failles en fait qu'on pouvait exploiter.
Ouais, il y a toute une histoire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les stratèges en marketing, bien avant que ces mécanismes du cerveau ne soit exploré, avait compris le truc. Moi, je m'étais penché sur un exemple que développait Jeremy Rifkin dans un de ses bouquins sur la fin du travail, où il reparlait d'une crise qu'il y avait eu dans les chaînes de production automobile aux États-Unis dans les années 20, où bah, après une phase de production importante, quand bon, la production automobile commençait à stagner, apparemment en partie parce que les Américains commençaient tous à avoir une voiture, donc ils n'avaient pas besoin d'en avoir une deuxième. Et donc, il y a le président Hoover qui avait commandité un audit à ses équipes pour essayer de savoir comment relancer la production. Et les gars, ils avaient été très fins observateurs, ils avaient conclu que si on voulait que les Américains achètent une deuxième voiture, il fallait leur dire « Vous avez une voiture, mais est-ce que vous en avez une de plus que votre voisin ?» Et donc là, c'était l'idée que ce qu'on recherche, c'est pas forcément le côté utilitaire ou pratique d'un objet, c'est le côté statutaire. Et là, bah, c'est pour ça qu'à mon avis, ça rentre en plein en phase avec ce qu'on est en train de se dire, puisque un des grands stimulus qui active la libération de dopamine dans le striatum, c'est le statut social. Là encore, parce que le fait d'avoir un statut social, ça a été pendant très longtemps un avantage en termes de survie et de capacité d'un individu à transmettre ses gènes. Et encore aujourd'hui, si vous voulez, on pourra en reparler, il y a des vraies corrélations entre le statut social et le nombre d'enfants. Et donc, notre striatum qui est en recherche de statut social va le chercher de mille façons, mais notamment à l'époque de Hoover, donc il allait chercher dans une deuxième voiture. Et puis après, on voit très bien comment fonctionnent les publicités pour les automobiles. Il y a soit c'est la voiture suréquipée, c'est-à-dire que vous avez certes le même modèle que votre voisin ou que votre beau-frère, mais avec une option en plus. Ou alors c'est des publicités où on va vous dire que va penser. Je me souviens, il y en avait une comme ça qui était dans le genre. Que va dire votre beau-frère quand il va voir votre voiture, ou est-ce que vous allez lui prêter, mais pas longtemps vous la reprenez. Enfin, on joue toujours sur la jalousie, l'envie, et le fait que celui qui peut se faire une belle voiture, c'est forcément qu'il a un certain statut, un certain revenu, et il faut pouvoir le montrer. Il y a eu toute une historique de ça. Juste une parenthèse, moi, ça m'a fait beaucoup amuser. Pendant le confinement en 2020, au mois de mars-avril, pendant le vrai confinement très très dur qu'il y avait, j'avais beaucoup été interrogé par les médias qui me disaient « Oui, vous voyez, maintenant, on voit que les gens arrivent à se limiter, ils arrivent à aller vers de la sobriété. Qu'est-ce qui va se passer après? Il y aura un monde d'après où les gens cesseront de consommer l'aveuglette. » Moi, j'avais fait une prédiction, j'avais dit « Vous savez, là, vous mettez le striatum des gens dans une cage, quand vous allez ouvrir la cage, il va pas être content, il va se jeter sur tout ce qui va lui passer à portée de main, encore pire. » Et au mois de juin, c'était très étonnant. C'est pour rebondir sur votre question, il y avait une publicité pour une marque de voiture célèbre que je citerai pas, dont le texte était texto, la voix off disait « Pendant 2 mois, vos instincts ont été maintenus en sommeil. Il est temps de les réveiller. » C'est exactement ça. Alors, il y a toute cette histoire-là. Alors, il y a la voiture. Il y a évidemment les déclarations de certains développeurs de jeux vidéo hein, qui s'en cachent pas dans des grands journaux spécialisés en jeux vidéo qui disent « Le jeu vidéo ultime, c'est celui qui crée une addiction. » Et qui eux, ils se référaient directement au circuit de la récompense puisqu'ils l'avaient étudié. Donc, là, on sent que les neurosciences commencent à être aussi mises à contribution pour augmenter l'efficacité de tout ça. Les exemples sont infinis. Quand on parle des addictions sexuelles aujourd'hui, qui ont été vraiment concomitantes, j'en parlais avec un addictologue de l'Institut Marmottan à Paris, Marc Valeur, qui m'expliquait ça. Il disait, on a vu apparaître les addictions sexuelles avec Internet et avec l'offre pléthorique de sexe en ligne. Parce que, au départ, nos instincts, nos envies de sexe, alors là, ça va être encore peut-être différent entre hommes et femmes. Ça sera l'objet d'une discussion. Nos envies de sexe sont ce qu'elles sont. Il y a forcément, probablement, un besoin de renouvellement, une tentation d'augmenter les os, de renouveler les partenaires, hein, qui fait peut-être partie de l'héritage humain traditionnel. Mais face à une offre pléthorique de sexe que propose Internet, notre système nerveux, il n'avait pas cité le striatum, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut mettre le doigt dessus, ce système de récompense, va être activé à chaque fois qu'il y a un renouvellement de partenaire. C'est ce qu'on va appeler l'effet Coolidge. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans striatum, le fait que il y a un mécanisme qu'on observe chez un grand nombre d'animaux, y compris chez l'homme apparemment, que quand on a le même partenaire sexuel pendant un certain temps, c'est pas inévitable. Bien sûr, je tiens à le souligner, mais il y a une tendance peut-être à une certaine érosion du désir. Et donc, on va combattre cette érosion, on va relancer la production de plaisir en renouvelant le partenaire. Et donc, on voit très, très bien ce qui se passe chez les...
C'était l'anecdote du président Coolidge, c'est ça, elle est assez
voilà.
Drôle d'ailleurs.
L'effet Coolidge, ouais.
Petit échange.
Le
je sais pas si vous pouvez la dire parce qu'elle est marrante.
Bah, c'était le président des États-Unis, hein, je sais plus en quelle année c'était, ça fait un moment, c'est les années 30, je crois. Calvin Coolidge, président des États-Unis.
Coolidge, c'est les années 20, je crois.
20, ouais. Qui visitait un élevage de volailles avec sa femme. Et donc, le éleveur, effectivement, expliquait que il y avait un coq reproducteur, voilà, qui fécondait beaucoup de qui avait une grande descendance. Et donc, la femme du président, très intéressée par ce qui se passe, dit, mais comment c'est possible que vous ayez autant de rendement avec un coq? Alors, l'éleveur répond, bah, c'est que le coq, bah, il est très actif, il fait son devoir de reproduction plusieurs fois par jour. Donc, la femme du président se tourne vers l'éleveur, dit, bah, vous devriez dire ça à mon mari. Sous-entendu, bah, il faudrait peut-être venir me rendre mes étoliers un peu plus souvent. Et donc là, le président se tourne vers l'éleveur, pas idiot, Calvin Coolidge, dit « Oui, mais dites-moi, monsieur l'éleveur, est-ce que le coq se reproduit toujours avec la même poule ?» Alors l'éleveur dit « Bah non, il change de poule à chaque fois. » Là, il dit « Bah vous devriez dire ça à mon épouse. » Donc voilà, l'effet Coolidge,
bon,
c'est ça.
Bon exemple de répartie, l'effet Coolidge, plusieurs partenaires.
Donc, quelles sont les incitations? Bah, les incitations, là, elles sont simplement liées à la diversité de l'offre.
Il y en a partout, oui.
La diversité de l'offre. On pourrait prendre les mêmes exemples pour l'addiction alimentaire, puisqu'aujourd'hui, dans les manuels de psychiatrie internationaux, on commence à poser la question, est-ce que les comportements compulsifs vis-à-vis de la nourriture peuvent être qualifiés d'addiction, hein? C'est en débat, c'est en train vraiment d'être caractérisé au niveau psychologique, psychiatrique, neurosciences. Oui. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une évolution vers des compositions, des plats transformés, qui vont taper toujours plus fort sur le système de récompense avec des comportements on voit vraiment des parallèles avec le comportement de la recherche de cocaïne. Il y a des études sur le rat, on commence à en faire chez l'homme aussi. Donc il y a un travail pour faire en sorte qu'il y ait un mécanisme addictif dans la consommation de biens de consommation courante même. Donc c'est une véritable volonté dans certains secteurs de l'économie.
Oui, donc on voit bien que c'est pas finalement, à l'époque actuelle, c'est pas tant notre comportement instinctif, mais c'est plutôt le système qui est mis en place pour utiliser certaines failles, entre guillemets, enfin certaines failles, c'est notre comportement, mais certains aspects de notre de nos pulsions pour appuyer sur ce point plus que sur d'autres parties de notre cerveau qui sont tout à fait aptes justement à nous imposer de la contrainte. Si on est éduqué là-dedans, si on est éduqué à méditer à la restreinte, etc., on est capable de le faire. En fait, on a toujours un libre arbitre. Mais voilà, c'est des constructions culturelles, des croyances, des mécanismes de plus en plus sophistiqués via maintenant des additions technologiques, via les écrans, via les algorithmes, etc., qui vont jouer sur cette faiblesse, en fait, sur cette tendance à l'addiction et la tendance à la pulsion. Donc c'est ça aussi qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on n'est pas, il n'y a pas un déterminisme naturel qui nous pousse à ne jamais savoir se restreindre. C'est un peu ça aussi, et que donc il faut aller chercher aussi dans le système et dans les structures qu'on a créées, quelles sont les clés à limiter la croissance finalement.
C'est la clé, c'est évidemment la réflexion essentielle. On n'a pas toujours misé sur un système économique, une représentation du monde qui serait au service du striatum. C'est, il y a un historique à ça. Si on reprend même l'histoire de l'Occident chrétien, par exemple, il y a littéralement une entreprise de jugulation, je sais pas si le mot est externe, de d'arraisonnement, en fait, du striatum. Si vous prenez toute la doctrine de l'Église avec les péchés capitaux, c'est la gourmandise, c'est la luxure. Enfin, c'est à chaque fois des commandements moraux pour dire stop au striatum. Donc, il y a eu quand même des civilisations qui ont voulu faire autre chose. Alors, évidemment, c'était très contraignant. Parfois, c'était sans doute très frustrant, voire traumatisant pour les humains de devoir aller contre. Parce que le striatum, c'est toujours la limite entre il est à notre service pour réaliser nos besoins vitaux. La question, c'est quand est-ce qu'on est au-delà du besoin pour aller vers le désir de superflu. C'est ça qui est en train de nous détruire. Et le problème, c'est qu'il y a nulle part dans notre cerveau une balise préfixée, un seuil préprogrammé qui dise là, on est dans le besoin qu'il faut satisfaire. Par contre, là, on est dans le désir. Mais en tout cas, on n'a pas toujours été dans un système visant à aller dans le désir, ouais, de la surenchère. Si vous reprenez la vraie origine de ça, c'est quand même, à mon avis, Adam Smith et la théorie de l'expansion et de la prospérité économique, qui part d'un point de vue, c'est que la prospérité viendra du fait que chaque individu va chercher à poursuivre son intérêt propre et maximaliser son intérêt propre, et que c'est le fait que chaque individu séparément cherche à poursuivre son intérêt maximal qui va donner des échanges fructueux entre les individus et une croissance collective. Ça a formidablement réussi, mais jamais on s'est posé la question, est-ce que là, on ne lâchait pas un fauve à l'intérieur de chaque être humain qui ne saurait plus s'arrêter face aux limites planétaires?
Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi que ce contexte culturel, dans lequel, et on le retrouve dans plein de, sous plein de formes, dans plein de cultures différentes, mais de favoriser en fait la restreinte, favoriser la conservation, le partage ou la coopération, etc., se fait dans un contexte où il n'y a pas d'abondance matérielle. C'est-à-dire que quelque part, la société s'organise pour que, précisément, soit il puisse y en avoir pour tout le monde, soit que la richesse, l'abondance, en fait, soit réservée simplement aux dominants, à une élite, et donc on va expliquer à tout le reste des gens qui n'ont pas cette abondance-là qu'en fait c'est très bien et qu'il faut être dans la restreinte. Est-ce que ça peut se faire dans un contexte où on a un sentiment d'abondance? Parce qu'on voit bien la problématique, c'est-à-dire que le discours de sagesse, de restreinte, de mettre le statut social sur quelque chose qui ne soit pas matériel, il est peu entendable dans un contexte où notre voisin ne le fait pas, et puis on a ce sentiment que finalement, il n'y a pas besoin de se limiter.
Alors, votre question, c'est que vous partez du point de vue que ce restreint...
Je pars de cette idée, je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. C'est-à-dire que cette idée que la restreinte culturellement a existé et on arrive à le faire, mais quand on a le sentiment qu'il n'y a pas d'abondance finalement, c'est qu'on est contraint. C'est-à-dire qu'il y a des logiques culturelles qu'on va retrouver qui vont nous dire, même des croyances, enfin des choses qu'on se transmet via des citations, enfin des proverbes, qui vont nous dire que ben voilà, il faut être fourmi plutôt que cigale, etc. Parce que finalement il y a de la rareté. Ouais. Mais dans un contexte actuel où on a l'impression qu'il n'y a pas de rareté, c'est extrêmement difficile d'intégrer ça. C'est un peu plus des sciences sociales, c'est-à-dire que vous parlez par exemple aussi, on peut aller là-dessus, mais de psychologie sociale, vous parlez dans l'Illustriatum du jeu de l'ultimatum.
Oui.
Et je vais peut-être lire ce passage parce que je l'avais noté. Et puis après, vous allez expliquer. Il dit, plutôt que l'inéquité, les gens préfèrent encore une stratégie perdant-perdant et ce réflexe s'enclenche tout particulièrement lorsqu'il s'agit de gérer des pertes collectives. Tant qu'il s'agit de gains, on tolère encore certains écarts. On va s'accommoder du fait que certaines personnes gagnent des fortunes aussi longtemps que l'on reçoit soi-même une petite part du gâteau, donc abondance. Mais lorsqu'il s'agit de faire des sacrifices, les exigences se resserrent. À mesure que les communautés doivent prendre en charge le coût d'une réduction de niveau de vie, la situation d'inégalité devient de moins en moins tolérable pour le cortex préfrontal. Voilà, je voudrais juste vous amener à parler de comment on fait dans un contexte d'abondance pour se restreindre en tant qu'individu, et je pense que tous ceux qui essaient de le faire voient bien comme quoi c'est compliqué. Si on est tout seul dans son entourage à se limiter, c'est difficile de le maintenir.
Oui, alors ça, la clé, c'est évidemment cette nature de coopérateur conditionnel de l'être humain. Ça, c'est un concept d'anthropologie. La coopération conditionnelle, c'est je suis prêt à faire des sacrifices si je sais que les autres le font aussi. Ça, c'est quelque chose qui est observé en anthropologie, vraiment dans presque toutes les sociétés. Si je suis seul à devoir renoncer à quelque chose, que je vois que les autres ne le font pas, effectivement, la partie de mon cerveau qui est en charge, en fait, de brider mes instincts de consommation et de plaisir, ne va pas tenir le choc. Il y a une expérience d'ailleurs qui a été faite, je ne sais pas si vous connaissez l'expérience du marshmallow. Ça consiste à mettre un petit friandise devant un enfant et lui dire si tu arrives à attendre 10 minutes sans le manger, t'en auras deux. Et donc il doit lutter contre son striatum qui lui fait désirer le marshmallow tout de suite et donc utilise son cortex préfrontal pour ça. Il doit essayer et donc ça lui demande de l'énergie mentale et il craque très souvent. Donc, il se jette sur le marshmallow tout de suite. Il n'arrive pas à attendre 10 minutes pour en avoir deux. Par contre, si on met deux enfants dans des pièces séparées et qu'on leur met à chacun un marshmallow et qu'on leur dit à chacun, tu sais, il y a un petit copain à toi dans l'autre pièce. Si tu arrives à résister et que lui arrive à résister, vous en aurez deux tous les deux. Par contre, s'il y en a un qui craque, vous serez tous les deux privés. Vous voyez, il y a un phénomène collectif qui émerge avec une responsabilisation de chaque enfant qui se dit, bah oui, je suis plus tout seul là-dedans. Ça ne marchera que si on arrive à résister tous les deux. Et là, leur cortex préfrontal y arrive beaucoup mieux. Donc, il y a vraiment un effet de groupe qui permet au cerveau des individus de se restreindre dès qu'ils savent que ils sont plus tout seuls dans la barque. Et c'est vrai que c'est aussi beaucoup plus fort quand il s'agit de partager des pertes. Donc là, l'expérience de l'ultimatum que vous mentionnez, c'est des jeux qui se jouent en binôme où vous avez une personne qui mène le jeu. Et qui est chargé, par exemple, de répartir des pertes. Vous partez chacun avec, mettons, 100 euros, et il y a le meneur de jeu qui dit, maintenant, on vient de m'imposer une contrainte, c'est que il faut qu'on perde à nous deux 100 euros. Donc, c'est moi qui vais répartir les pertes. Et donc, le meneur de jeu peut dire soit toi, tu vas payer 80 euros et moi, je vais en payer 20. Soit il peut faire une offre plus équitable, dire bah on va payer tous les deux 50 euros. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que s'il fait une offre équitable, ok, bah l'autre accepte, il va donner 50 euros. Donc les deux vont participer à hauteur de la même somme pour la perte partagée. Par contre, s'il fait une offre inéquitable, s'il impose à l'autre de payer 80 euros plus et lui seulement 20, à ce moment-là, l'autre n'est pas du tout d'accord. Et pour ça, on lui donne un moyen de se rebeller. Il a le choix soit d'accepter de payer les 80 euros que lui impose le meneur de jeu, soit il fait la stratégie du perdant-perdant, c'est qu'il dit, bah non, dans ce cas-là, moi, je décide de perdre mes 100 euros et l'autre, il va aussi perdre 100 euros. Et donc, il préfère perdre 100 euros que 80, en condition que l'autre aussi paye 100 euros. Donc, ce qui compte, c'est pas la valeur absolue de ce qu'on perd, mais c'est la valeur socialement relative. Si je suis vraiment dans la difficulté, mais que je sais que tous mes voisins le sont aussi, à la limite, ça, je le supporte. Ça, ça montre quelque chose de très important. Ça veut dire que si on arrive à mettre en place un système de transparence et d'équité, on peut très bien supporter tous ensemble une réduction quelque part de notre confort de vie. Et par contre, ce qui rend impossible de réduire notre confort de vie, c'est l'opacité, c'est l'inégalité, c'est les privilèges, c'est les passe-droits, et c'est un système où on ne sait pas si la charge est vraiment partagée de façon équitable. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas posé aujourd'hui, même si ça l'est par les revendications régulières de tel ou tel corps de métier, de telle ou telle frange de la population, mais au niveau de l'organisation sociale et des cadres conceptuels de l'économie, on pose jamais la question, est-ce qu'on accepte, par exemple, que nos revenus soient quelque part publiés, que nos impôts aussi, qu'il soit, par exemple, impossible de gagner 10 fois plus que son voisin, des choses comme ça. Alors évidemment, ça fait très très peur, parce que ça ramène à des spectres de l'histoire, comme le communisme qui est vu aujourd'hui comme quelque chose qui a fait beaucoup de mal, probablement à juste raison. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1930, en 1940, en 1950, on est en 2024, on est face à une autre conjoncture, on est face à d'autres représentations globales du monde, et il y a des choses à inventer, elles ne le sont pas, et ça reste un tabou, c'est-à-dire la liberté individuelle est vue aujourd'hui comme la liberté de réussir à hauteur de mon mérite, sans penser que souvent c'est de la chance, et à m'enrichir autant que j'en ai le droit, si je respecte le droit. Mais ça, ça rend totalement impossible la sobriété collective. Et donc, il va falloir faire des choix.
On voit bien que ceux qui sont les gagnants du jeu n'ont pas grand intérêt à promouvoir ce type de proposition.
Ben, évidemment.
De toute façon, c'est aussi un des verrous du système. C'est-à-dire qu'on a, de même que le récit de la croissance et du dépassement et la valorisation, justement, du toujours plus est ultra dominant. Et c'est extrêmement compliqué d'en sortir. Parce que, effectivement, vous l'avez dit, c'est soit, quand on le fait tout seul dans son coin et qu'on n'est pas entouré de gens qui le font, bah, on a un décalage et donc, très vite, ça ne tient plus. On voit tout cet effort-là. Et pour que ça se passe au niveau de la société, il y a tellement de verrous qui sont mis en place pour nous dire que, justement, on a besoin de telle ou telle nouveauté, qu'on a besoin et que la puissance est quelque chose de positif. Et que ça fait partie justement aussi de cette pulsion de vie même. Voilà, certains vont même aller citer du Nietzsche dans la pulsion de puissance comme quelque chose de naturel, voilà, sans forcément toujours comprendre. Mais donc il y a cette guerre aussi des récits, il y a cette qui est maîtrisée par ceux qui aussi veulent qu'on croit beaucoup plus. Est-ce que vous avez réfléchi à ça, qu'est-ce qu'on fait de ça en tant que, pas forcément en tant que société, parce que il nous faudrait une autre heure, mais en tant qu'individu, c'est-à-dire comment on fait pour gérer cette contradiction quotidienne entre, pour ceux qui l'ont compris en tout cas, ou qui l'estiment, cette idée que, enfin, ce besoin de décroître parce qu'on se dit qu'à un moment donné, sinon on va se prendre un mur, et bah, toutes les injonctions qu'on a qui nous disent qu'il faut croître.
Oui.
Qu'est-ce qu'on met en place?
Bon, on fait pas pareil déjà selon les individus, parce qu'il y a des individus que je vois qui se disent bah tant pis, c'est comme ça, on n'y arrivera pas, donc moi j'ai continué à vivre aussi bien que possible dans ce système-là. Mmh. Et puis ça va tenir comme ça va tenir, et puis au bout d'un moment, par un phénomène de rationalisation, on finit par trouver des discours pour s'auto-justifier. Ça, c'est tout un sujet en soi. On finit par se dire qu'en fait c'est pas si grave. On trouvera une solution technologique. Aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement, je ne sais pas si vous avez dû entendre ça sur les ondes, l'éco-optimisme. Je suis très, très, je m'interroge beaucoup par rapport à ça. Je me demande si on n'est pas en train de basculer.
Il y a eu des manifestes qu'on tournait. Ouais.
Ouais. Justement, pour la forme la plus radicale du déni, qui est de se dire c'est une opportunité extraordinaire, tout va aller bien. Bon, il faut être optimiste, c'est sûr. Mais bon, faut savoir que notre cerveau nous joue des tours à ce niveau-là, et que quand on, pour des raisons financières, quand on a un prêt à rembourser, qu'on est obligé de garder une position où on a un salaire élevé, ça a été très bien démontré, ça par Léon Festinger, hein, l'inventeur de la rationalisation, qui montre que quand on est pris dans une situation, on se crée un discours ensuite pour la justifier. Donc on peut faire ça, et beaucoup de gens qui font comme ça. Moi, je dirais, quand on se rend compte qu'il y a un problème et qu'on veut changer, qu'on veut aller vers de la sobriété et qu'on se sent seul, bah déjà, faut pas être seul. Ça, c'est ce que nous montrent ces expériences de l'ultimatum. Bah, faut être à plusieurs. Bah, on n'est pas obligé d'être toute la société. Déjà, on peut être des réseaux, on peut être des groupes de personnes qui se soutiennent, qui croient dans la même chose. Et ça suffit souvent, hein, quand on est épaulé. Et qu'il y a... Bah alors, c'est la solidarité, hein, qui va être le maître mot, évidemment. Mais on le voit parmi les gens qui le font, les gens qui changent de vie, qui s'échangent des trucs, qui y croient ensemble, parce que quand on y croit ensemble, on y croit beaucoup plus. Donc il y a ça. Il y a aussi une autre économie de la dopamine à inventer, c'est-à-dire que notre striatum, il nous donne de la dopamine, il nous donne du plaisir de mille façons. On sait par exemple que la musique, faire jouer d'un instrument, il y a le fait de consommer de la musique, certes. Jouer d'un instrument, c'est un libérateur de dopamine extraordinaire. Être un passionné d'érudition, de connaissance, de culture, là aussi. Il y a des expériences à l'Université de Californie là qui ont montré, ça fait déjà une dizaine d'années maintenant, quand vous allez visiter un musée, que vous ouvrez une encyclopédie, que vous passionnez pour le nom des arbres, pour l'astronomie, et que vous faites ça avec un jeune, par exemple, on voit en imagerie cérébrale qu'au bout de 20 minutes, il y a son striatum qui libère de la dopamine. Et la dopamine va s'écouler dans son hippocampe, qui est un centre de mémorisation, qui va renforcer les connexions. Donc, non seulement il aura du plaisir, mais il va ressortir grandi par les connaissances qu'il aura mémorisées. Et donc, il y a toute une économie de la dopamine qui serait pensable en dehors de la matérialité pure, c'est-à-dire par la culture, par l'art, par l'altruisme aussi, puisqu'on dispose aussi de données très, très solides en imagerie cérébrale qui montrent que le fait de partager libère de la dopamine. Mais il faut juste... s'affranchir d'un certain nombre de freins qu'on a bien souvent par rapport au fait de posséder soi-même. Là, on est un petit peu pris dans une situation où tout le problème, c'est qu'on peut avoir une activation de notre circuit de récompense, de notre striatum, par des moyens très simples. Il suffit d'acheter, il suffit de consommer. Ça demande peu d'efforts. Ça demande moins d'efforts que de se former à une pratique artistique ou intellectuelle. Mais c'est pas grand-chose comme différence. C'est tout bête parce que il y a des effets gigantesques et terribles qui tiennent en fait à une petite barrière de curiosité, de formation, de transmission de choses immatérielles qui peuvent libérer autant de dopamine que le fait de s'acheter un téléphone. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que prenez par exemple le plaisir que peut avoir un gamin quand il est face à un enseignant qui lui fait passer des choses vraiment passionnantes. Ça a été observé, comme je vous disais, on voit très bien en imagerie cérébrale, c'est les mêmes mécanismes. Mais ça se produit pas instantanément, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à rester concentré 15-20 minutes, par exemple, sur le propos de l'enseignant qui parle, qui fait peut-être des schémas sur un tableau, mais il n'y a pas une vidéo, des petits bruits qui clignotent, machin. Donc il faut rester focus en maintenant son attention de façon autonome. Et ça ne fait pas le poids quand vous avez moyen d'avoir exactement la même décharge de dopamine d'un clic sur une vidéo YouTube sur votre écran. Et donc, on voit que carrément, il y a presque l'avenir du monde qui va dépendre d'une bataille qui se joue sur 15 ou 20 minutes où il faut pouvoir se dire, avoir confiance dans le fait que notre cerveau va nous rendre heureux par des moyens qu'on a un peu délaissés parce qu'on a tout facilement par la loi du moindre effort qui est très puissante. Ouais. Donc c'est quelques pistes, voilà.
Oui, et on voit que le rapport de force est pas évident. D'où l'importance aussi d'avoir des réflexions au niveau d'une société sur l'éducation, sur ce qu'on autorise ou pas comme addiction finalement, avec les écrans, avec tout un tas de choses qui est hyper important parce que finalement le combat est assez inégal. C'est-à-dire qu'effectivement à partir du moment où on met une guitare dans les mains d'un ado et puis à côté on lui met un téléphone, c'est pas la même c'est presque, enfin, c'est pas avoir perdu d'avance s'il n'y a pas eu en tout cas une préparation à ça. On arrive sur la fin. Je voudrais essayer de donner un peu des pour actions de plus en plus à ceux qui nous écoutent, à celles et ceux qui nous écoutent. On avait parlé un peu en off avant de l'importance en fait de à quoi ça sert de connaître un peu le fonctionnement du cerveau, sans forcément aller sur les détails, mais et même sans forcément aller sur le cerveau d'ailleurs, la connaissance de nos propres mécanismes comportementaux. Et puis donc est-ce qu'il faut s'y intéresser un petit peu plus justement pour savoir pour reprendre du libre arbitre quelque part? Et pour reprendre un petit peu la main, et qu'est-ce qu'on peut faire assez facilement, concrètement, je sais pas s'il y a des petits hacks justement pour des petits exercices pour s'entraîner à ça, pour reprendre la maîtrise et pas se laisser embarquer dans toutes les sollicitations quotidiennes, quoi.
Alors il y a plusieurs approches à plusieurs niveaux. Au niveau individuel, il y a déjà la pure connaissance du mécanisme qui doit être un point de départ d'une forme d'auto-examen sans complaisance. Moi, je le vois dans les discussions à table, je vois les discussions avec des amis, les discussions avec mes collègues, dans les discussions, dans les conférences. Quand quelqu'un, face au mot sobriété, me dit « oui, mais c'est quand même ma liberté individuelle qui est en question ». Vous voulez m'empêcher de manger ce que je veux, vous voulez m'empêcher de m'acheter les habits que je veux, les téléphones, de voyager en avion quand je veux, mais c'est ma liberté individuelle. Et là, quand on va dans une discussion sur ces circuits de dopamine, on arrive bien souvent à la conclusion qu'à peu près 80% de ce qu'on appelle la liberté individuelle, c'est en fait un asservissement à ces circuits profonds. C'est-à-dire que moi j'ai envie de manger un hamburger tous les jours si j'ai envie. Est-ce que c'est moi qui décide de cette envie, ou est-ce que c'est ces mécanismes de sélection naturelle qui ont œuvré depuis nos ancêtres dont on parlait tout à l'heure il y a 3 millions d'années, qui avaient besoin de ça pour survivre? Si c'est ma liberté individuelle de m'acheter un nouveau SUV, est-ce que c'est parce que c'est un choix libre, ou est-ce que c'est parce que mon striatum est sensible à tout signe de statut social? Ou est-ce que c'est la loi du moindre effort qui est aussi pourvoyeuse de dopamine, qui fait que je préfère m'asseoir sur des coussins confortables plutôt que de prendre mon vélo sous la pluie pour aller au boulot? Mais là, il y a une discussion, je pense, qui est intéressante à l'époque où on vit, parce qu'elle met ensemble plusieurs pièces du puzzle. Il y a l'interrogation philosophique éternelle de se connaître. Est-ce que c'est juste une curiosité éthique, ou est-ce que ça amène à des choix personnels? Il y a l'apport des sciences de l'évolution et de la biologie qui va se greffer dessus. Et puis, il y a l'impact aujourd'hui que ça a sur le monde concret. C'est pas juste philosopher et faire des choix personnels pour vivre une bonne vie éthiquement, mais pour savoir si on aura encore une vie tout court dans le monde de demain. Donc, on a besoin d'avoir ce débat au niveau du débat public, parce que ça concerne le bien commun, et aussi parce que c'est indispensable à chacun pour s'interroger sur sa propre conduite, et que c'est pas toujours simple de le faire tout seul. Il faut avoir les éléments pour ça. Donc ça, c'est au niveau de la pure connaissance pour répondre à votre question. Après, au niveau individuel, typiquement, les problèmes auxquels on est confronté, c'est face au quotidien qui parfois est difficile, face au stress, face à l'envie de se faire plaisir le soir en rentrant à la maison, en se faisant un plateau devant la télé, en commandant des sushis, en regardant sa série préférée. Il y a parfois, et je pense qu'on en fait tous l'expérience, ce besoin de ce genre de stimulation pour pas se sentir mal, pour requinquer, pour se sentir vivre, pour, et c'est dur parce qu'en fait on est pris dans une vie de stress où on a souvent besoin de ces adjuvants pour se sentir bien, pour éprouver quelque chose, pour éprouver du plaisir. Et là, parfois j'ai des critiques là-dessus pour dire c'est de l'angélisme. Mais non, je pense que remettre la main sur les concepts de plaisir. L'épicurisme, c'est pas augmenter les doses des stimuli dans un monde d'une orgie consumériste sans fin, non. C'est trouver du vrai plaisir par la conscience et la présence des choses qu'on goûte au quotidien. Et donc tout ça suppose de savoir quel rôle joue notre cortex cérébral dans la capacité à jouir de ce qu'on a au moment où on l'a, sans que ce soit forcément dans une débauche de consommation. Et là, on entre dans le domaine de la méditation de pleine conscience qui manipule de façon directe ces concepts et aussi ces zones du cerveau qui les amènent à interagir différemment, puisqu'on a des ateliers aujourd'hui de pleine conscience qui permettent à des personnes qui sont en situation d'alimentation compulsive, de retrouver du plaisir en mangeant moins avec des exercices qui consistent à prendre conscience de chaque bouchée, mâcher plus longtemps. Alors, c'est une discipline, mais ça pose la question, est-ce que le plaisir est possible dans un monde de décroissance matérielle? Et la réponse est oui. En fait, c'est une nouvelle géniale. C'est pas juste le dire, on va tous devenir des moines bouddhistes et puis... Non, c'est comment on fait pour être heureux avec moins. Ça paraît... Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire c'est retour à l'ambre des cavernes, mes amis, chez tout ça, mais pas du tout. C'est le retour à l'épicurisme. On peut pas avoir du plaisir dans un monde où on est condamné à consommer toujours plus, parce que c'est une fuite en avant. Le système se lasse. Donc là, c'est se dire comment je fais pour me familiariser avec ces notions de pleine présence à des petits plaisirs. Et ça, c'est dur. C'est possible, mais c'est dur. Parce que ça demande de la discipline, ça demande de la régularité, ça demande du temps, ça demande de pas être sous pression constamment. On est dans un monde qui nous place face à des contradictions, face à de l'angoisse. Notamment, la première contradiction étant le fait de vivre en désaccord avec ses valeurs. Et il y a des sondages qui disent que plus d'un Français sur deux sera dans un conflit de valeurs au travail, notamment par rapport aux questions environnementales. C'est de se dire, tant que je suis dans cette tension intérieure, je vais être sous l'effet d'hormones du stress et je vais avoir tendance à compenser par de la dopamine, par de l'achat impulsif, par du plaisir consumériste. Donc, et c'est pour ça que j'en arrive au troisième échelon. C'est quand même un échelon politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des voies de sortie. Faut qu'à un moment, il y a un courage politique pour dire, est-ce que vous êtes d'accord pour rebattre les cartes et pour que les gens aient plus de temps pour aller vers ces solutions individuelles, quitte à peut-être aller vers moins de croissance et peut-être plus de redistribution. Et aujourd'hui, ce discours, il est inaudible, on l'entend parfois, on l'entend, mais c'est pas celui qui recueille les plus grandes intentions de vote, et je pense que c'est de la responsabilité des responsables politiques, entre guillemets, respectables, de se dire maintenant, j'ai pas le courage de remettre en cause le dogme de l'inégalité et de la croissance, mais il faut que je le prenne et que je pose des questions de façon très large, de façon responsable, dans des débats publics et pas dans des simulacres de débats publics, en ayant le courage de m'opposer aux intérêts particuliers. Mais ça va être absolument indispensable, et j'appelle les leaders politiques à poser ces questions inspirées de la psychologie sociale, l'importance de l'équité, les concepts de coopération conditionnelle, pour dire qu'est-ce que vous voulez, voilà. Et on va faire un référendum et on va voir ce qui en sortira.
Oui, on voit bien à quel point c'est plus facile de jouer sur la liberté, l'idée de liberté qui parle à tout le monde, et de sans expliquer ce qui peut se passer justement et les restreintes qui peuvent se passer si on continue avec cette idée de non-restreinte, justement.
Bah, la seule liberté qu'on a...
D'ailleurs, c'est toujours l'argument qui est opposé.
Moi, j'ai l'impression que la seule liberté qu'on a, c'est celle de choisir les contraintes qu'on va s'imposer, parce que sinon, on ne les choisira pas. Et là, on ne sera pas libre.
Ouais. Bah, d'où l'importance aussi d'expliquer ce qui se joue. Et ce n'est pas si facile que ça, finalement, dans une époque où la vérité même prête à débat. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que donc on n'est pas pleinement libre de nos comportements, évidemment. Et ça, c'est un débat vieux comme la philosophie. L'homme est libre comme une pierre qui tombe, disait Spinoza. On va pas se partir maintenant dans l'idée libre arbitre, mais que voilà, on est conditionné par des vieux comportements, par des choses dont on a hérité, mais que malgré tout, on peut encore avoir la main sur qui on veut être, sur ce qu'on veut faire.
Ouais, on est influencé.
Ça invite à réfléchir à ces questions.
On est influencé par des forces logées au fond de notre système nerveux. On n'est pas entièrement conditionné. Et la liberté qu'on a, c'est de dire oui à cette force ou de lui dire non.
En jouant sur la complexité de nos mécanismes neurologiques. Dernière question. Deux livres à lire absolument dans une vie, ou deux livres qui vous ont particulièrement marqué, roman ou essai, sur ces thématiques ou pas, et une ou deux expériences à vivre.
Deux livres à lire. Alors il y en a un, moi, qui m'a vraiment qui m'a fait l'effet d'une illumination, c'est Le gène égoïste de Richard Dawkins. C'est une manière de comprendre pourquoi nous existons et pourquoi nous agissons comme nous agissons. Nous, êtres humains, aujourd'hui, je préfère pas faire le pitch du bouquin, mais c'est Ouais. C'est assez extraordinaire. Un autre livre comme ça, je vois pas, parce qu'il y en a tellement.
Bon, c'est pas grave, hein, ouais, c'est déjà
si,
pas mal. Hein.
Si je dis le gène égoïste, ça va encore laisser croire que je pense qu'on est déterminé génétiquement. mais non, mais c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Ouais. C'est après l'expérience à vivre absolument. Ouais, l'expérience. J'ai pas des expériences de sortie du corps comme certains, mais non, mais les expériences à vivre absolument. Enfin, en dehors du fait de, en fait, c'est banal, quoi. Mais c'est des moments où on éprouve de l'amour pur pour ses enfants. Mais que dire de plus? Mais sinon, non, moi, j'avoue que
ouais. C'est pas si banal que ça.
Mais là, non, les grandes randonnées dans le parc des Écrins.
Ok.
J'y reviens toujours. Je me dis.
Très bien.
Alors il y a sûrement des choses encore plus belles à voir, mais c'est des choses que je me souviens après une semaine de rando dans le parc des Écrins, avoir fait une expérience très étonnante. Je me suis beaucoup interrogé là-dessus. C'est-à-dire que pendant un mois, au moins un mois, je rêvais toutes les nuits que je marchais dans la montagne. C'était incroyable. Mais vraiment, ça m'est plus arrivé après. Et comme s'il y avait quelque chose dans les stimuli entrants qui s'était imprimé tellement profondément que ça ressurgissait ensuite dans le rêve. Je me suis un peu penché ensuite sur la question dans les neurosciences du rêve, et on a beaucoup d'indices qui montrent aujourd'hui que les rêves auraient cette fonction-là de répéter en boucle pendant notre sommeil les choses qui transforment notre vie et qui ont la capacité ensuite de nous emmener plus loin. Donc, mais c'était vraiment quasi mystique comme expérience. Moi, je sais que le terme mystique n'a rien à pas forcément grand chose à voir avec les neurosciences, mais vraiment très frappant. Ouais.
Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cette conversation vous aura plu, peut-être même qu'elle vous aura fait un peu changer de regard sur notre époque et ses enjeux. Je suis Julien Devorex, je me consacre à plein temps à cette enquête sur le monde parce que je suis convaincu qu'on a besoin d'y voir plus clair et qu'on a besoin de croiser les regards et les sujets si on veut être en mesure de bien traverser les secousses présentes et les secousses à venir. Si ce podcast vous plaît et que vous l'écoutez de temps en temps, pensez à me soutenir via un don. Même un euro, ça compte. Ça me permet de financer mes outils de production, par exemple. Et sinon, vous pouvez simplement parler de Sismic autour de vous ou via vos réseaux sociaux. Pour aller plus loin, vous pouvez rejoindre la communauté des auditeurs sur le Discord, vous abonner à Sismic sur les réseaux. Vous pouvez vous abonner à la newsletter dans laquelle je partage des informations complémentaires sur les épisodes et mon opinion sur certains sujets. Ou encore, vous procurer mon livre qui s'appelle « Le monde change et on n'y comprend rien ». Aux éditions First. Tous les détails et tous les liens sont sur sismic.fr comme d'habitude. Merci pour votre curiosité, merci pour votre soutien et à bientôt.
Changer le monde. Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer ?